Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. De ce week-end, il restera sans doute les images d'une France insouciante, des parcs, des jardins, des marchés bondés, alors que dans les hôpitaux, la vague, comme on dit, est déjà là, portée par une épidémie très rapide, avec des cas graves qui ont doublé en 3 jours. Dans le Grand Est, les services de réanimation sont déjà sous tension. Alors la question d'un confinement général se pose à la France. Le président de la République prendra de nouveau la parole ce soir à 20h. Cet après-midi, les formations politiques ont accepté le principe du report du deuxième tour des élections municipales, un scrutin écrasé par une crise naturellement sans précédent, l'équivalent d'une guerre, comme l'a dit ce soir le président de l'Eurogroupe. Alors que les pays européens ferment un à un leurs frontières, que les marchés s'effondrent et que le G7 cherche toujours une réponse commune face à la crise économique. Alors faut-il se préparer à un confinement total? À quoi cela correspondrait-il réellement? Est-ce vraiment la seule solution? Comment cela s'est-il passé dans les autres pays vers un confinement général? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste au magazine L'Express. Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous avez précédemment publié « Gouverner l'imprévisible », pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire aux éditions Lavoisier, c'était en 2009. Et ce soir avec nous, en duplex, Alain Bauer. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes également spécialiste en gestion de crise. Vous travaillez, je le rappelle, ce soir auprès des institutions. Vous appartenez depuis 2001 à un réseau international qui regroupe différents experts, dont des épidémiologistes. Enfin, Cécile Thibert, vous êtes journaliste santé au journal Le Figaro. Vous avez signé une enquête ce week-end sur la situation justement des hôpitaux dans le Grand Est qui sont au bord de la rupture. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct avec des conditions, vous le voyez ce soir, très particulières. Cette émission est réalisée dans des conditions qui permettent d'appliquer au mieux les consignes des autorités sanitaires. On commence avec une question pour vous, Alain Bauer. Est-ce qu'on peut éviter, à l'heure où on se parle, un confinement général?
Non, le président de la République a expliqué que l'épidémie était inexorable et le confinement est inéluctable. Nous l'avons annoncé, notamment avec Mme Crémieux, que je salue, sur votre plateau à plusieurs reprises. Et donc, il n'y a pas de surprise particulière. J'en profite d'ailleurs pour féliciter France Télévisions, qui fait ce qu'elle dit, à la différence d'autres émissions qui se passent toujours en public, et notamment la soirée électorale de dimanche, où on a vu de très nombreux responsables politiques appeler les Français à la raison et au calme et n'appliquer aucun geste barrière dont ils nous parlent en temps de manière récurrente. Donc c'est très bien d'entrer dans ce processus qui montre aux Français que ce qu'on leur dit est aussi la vérité et que ce qui nous tient éloignés du plateau n'est pas notre état de santé, mais le fait que nous sommes attentifs et que nous évitons à la fois de contaminer les autres et d'éviter de le devenir nous-mêmes.
C'est dit. Vers un confinement général, c'est vrai que Alain Bauer faisait référence à ce que nous avons dit, hein, ici même sur ce plateau il y a quelques jours. Qu'est-ce qui a changé depuis jeudi dernier? Alors je précise que le président n'a pas encore pris la parole, mais on s'achemine vers un confinement. Mais qu'est-ce qui a changé, Anne-Claude Crémieux?
Exactement ce qui s'est passé en Italie. C'est-à-dire le terrain, les médecins qui voient se multiplier les cas, qui voient les cas graves arriver dans les réanimations, et le tout avec une vitesse de doublement qui est impressionnante.
Et qui nous dépasse un peu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas anticipé ça.
Bien, les Italiens nous avaient prévenus, et peut-être qu'on ne les a peut-être pas assez écoutés. Il se passe vraiment la même chose. En Italie, pareil, ce sont les médecins de terrain qui ont alerté en disant « Attendez, c'est une catastrophe, les patients arrivent, on n'a plus assez de ventilateurs. » En France, c'est pareil. Le terrain voit toujours avant ce qui se passe et voit toujours l'épidémie se multiplier avant même que les chiffres arrivent aux politiques.
Cécile Thibert, c'est ce que vous avez raconté précisément dans votre enquête dans Le Figaro, où vous avez expliqué que notamment dans le Grand Est, qui a été touché parce qu'il y avait un cluster, comme on disait à l'époque, dans le Grand Est, et les hôpitaux se sont retrouvés assez vite en situation de grande tension.
Oui, je les ai eus au téléphone toute la journée hier, j'ai réussi à les avoir 5 à 10 minutes par-ci, par-là. Ce qui règne quand même, c'est malgré tout un calme et un grand professionnalisme chez tous les réanimateurs que j'ai au téléphone. Ils essayent vraiment de toutes les équipes, tous les infirmiers, les aides-soignants, les médecins sont au max du max. Là, pour le moment, ce qui a l'air de ressortir, c'est qu'ils craignent davantage un manque de personnel soignant, puisque comme nous l'a montré l'expérience chinoise, les soignants vont aussi être contaminés par le virus, le nouveau coronavirus. Et donc, il va falloir qu'ils soient confinés, enfin en tout cas mis au repos le temps que ça passe. Et c'est ça qui va poser problème, puisqu'il risque d'y avoir un manque de soignants, plus qu'un manque de ventilateurs dans certains services de réanimation.
Parce qu'ils sont affectés eux-mêmes. Christophe Barbier, voilà ce qui a changé depuis jeudi. Parce que ce n'est pas rien d'entendre un président faire une intervention solennelle le jeudi et de l'entendre convoquer de nouveau les Français le lundi.
Oui, avec entre-temps deux prises de parole du Premier ministre. Une à la mi-journée de vendredi, plutôt rassurante, presque bonhomme, en tout cas donnant l'impression aux Français que c'était sérieux, mais qu'il ne fallait pas non plus paniquer. Et puis le samedi soir à 19h30, une intervention beaucoup plus martiale du même Premier ministre. Changement de ton dans la parole publique, dans la parole d'État, parce que changement de réalité dans les projections épidémiologiques, et puis difficulté à convaincre les Français de changer leur mode de vie au quotidien, à la minute, pour se protéger, pour protéger les autres. La volonté de vivre comme d'habitude semblait plus forte que toutes les alertes possibles. Peut-être a-t-on été trop optimiste, a-t-on pas assez dramatisé, notamment à l'aune des exemples chinois et italiens. Tout à l'heure, ce qui se racontait, c'est que ce soir, c'est 45 jours qui pourraient être donnés comme durée de confinement, mais c'était encore en débat.
Alain Bauer, je voudrais juste avoir votre réaction sur... Aujourd'hui, on montre, c'est vrai, ces images des Français qui sont allés faire leurs courses, qui sont allés au parc. Peut-être que ces Français-là, ils se souviennent de ce qu'on leur a dit aussi au tout début de l'épidémie, où on leur disait la vie doit continuer, il faut continuer à vivre normalement.
Oui, je voulais dire que j'avais un petit désaccord avec Christophe pour une fois, c'est qu'il n'y a pas eu de changement dans les courbes épidémiologiques. Ceci n'est pas exact. Les courbes épidémiologiques sont les mêmes, elles sont les mêmes depuis 100 ans, elles disent toujours la même chose, de la même manière. Vous pouvez les reprendre depuis la grippe espagnole de 1918-19 jusqu'à nos jours. Toutes les courbes épidémiologiques commencent par une montée de l'Everest et de l'Annapurna réunies si on ne prend pas des mesures de restriction et de confinement. Alors, le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, ils font un discours de cohérence. Le gouvernement avait choisi un discours que je qualifierais de pédagogique. Il faut y aller progressivement parce que les Français ne seraient pas prêts à comprendre que ce n'est pas bien. Le problème, c'est qu'il faut être totalement cohérent. Soit on décide... Ce que les Anglais ont commencé à faire avant de rétro-pédaler brutalement devant l'ampleur de la pandémie, de la mortalité et de la mortalité de gens jeunes, pas seulement de gens âgés, comme ceci a été dit avant. L'histoire des 2% est une formidable histoire, sauf que 2% sur 10 000 personnes, ce n'est pas la même chose que 2% sur 10 millions de personnes. Et tout le monde a soudain compris que le pourcentage ne se calculait pas dans l'éther, comme si ça n'existait pas, mais par rapport à un nombre physique de personnes qui allaient être gravement touchées, dont il fallait avoir 2, 3, 4 semaines de ventilation pour essayer de les sauver, avec un taux de mortalité d'autant plus élevé qu'on allait être en coupure sanitaire, en manque de ventilateurs et de personnel, parce qu'eux-mêmes tombaient malades, comme ce qui a été très bien dit. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est la cohérence. Le gouvernement est passé de l'entre-deux, qui n'est pas exactement en même temps, c'est plutôt la version « on ne sait pas trop sur quel pied danser », à la prise en compte d'une réalité qui était présente, visible et inéluctable. Et je tiens à dire d'ailleurs que le président de la République a fait une tentative courageuse en essayant de convaincre les partis politiques qu'il fallait interrompre le premier tour de l'élection présidentielle, qui nous aurait fait gagner quelques journées précieuses, et qu'il a échoué parce qu'il n'a pas obtenu un consensus qui soudainement s'est révélé dimanche soir, où tout le monde a pris conscience de l'ampleur du risque, parce que les épidémiologistes, ils disent tous la même chose. Certains même disent... C'était même plus grave que ce qu'on pensait. Mais personne n'a dit que ça n'était pas grave.
On va y revenir, Alain Bauer, sur les élections, parce que précisément cet après-midi, alors l'information n'est pas confirmée, mais les partis politiques auraient accepté le principe d'un report des élections le 21 juin. Je voulais juste vous dire, on parle de confinement général, quelques mesures qui ont été annoncées cet après-midi et qui montrent bien que les institutions aussi se préparent, les organisations, les entreprises. Paris a donc décidé de fermer ses parcs, ses jardins. La RATP a réduit son offre après une chute malgré tout de la fréquentation. La SNCF ne met plus de contrôleurs dans les trains. L'entreprise Renault a décidé de fermer ses usines en Europe. Donc on voit bien que les choses avancent doucement, mais qu'elles avancent et que les mesures les plus spectaculaires sont prises les unes après les autres. Emmanuel Macron va donc prendre la parole pour la deuxième fois de manière solennelle. Ce sera ce soir à 20h. L'exécutif fait face à la progression exponentielle de l'épidémie et à l'appel à l'aide des équipes médicales qui voient arriver une vague de cas graves. On est ce soir à 400 cas considérés comme graves, alors que les Français, eux, ont bien du mal. Ils ont eu bien du mal, d'ailleurs, ce week-end, à suivre des directives de distanciation sociale, comme on dit. Walid Berissoul, Pierre de Horne.
Progressivement, et sans doute un peu poussivement, Paris se confine. Les Champs-Élysées aujourd'hui ne sont pas loin d'être déserts. Alors que le quartier d'affaires de la Défense semble vivre un peu plus au ralenti. Et devant les dernières enseignes encore ouvertes, pharmacies ou supermarchés, chacun garde à peu près ses distances. Une consigne insuffisamment respectée ces derniers jours, disent les autorités. Alors samedi soir, Édouard Philippe a haussé le ton.
L'immense majorité des scientifiques le dit, la meilleure façon de freiner la progression de l'épidémie, c'est ce qu'ils appellent la distanciation sociale. Je ne vous dis pas que c'est un joli terme. Je sais que c'est un concept qui nous rebute, nous Français, parce que nous sommes un peuple qui aime se rassembler, parce que nous sommes un peuple joyeux, heureux de vivre ensemble. Peut-être même encore un peu plus quand la peur commence à gagner les esprits.
En annonçant la fermeture des bars et des restaurants le soir même à minuit, le Premier ministre n'a pas vraiment dispersé les noctambules. Ambiance de compte à rebours de réveillon, juste avant minuit, dans certaines rues festives de la capitale, où la police a parfois dû intervenir face à une clientèle tentée par un tout dernier verre.
On parlait avec les serveurs, c'est bien qu'on soit solidaires et que tout ferme, mais on profite jusqu'au couvre-feu, quoi.
Le lendemain, premier jour du stade 3 de l'épidémie en France, un dimanche de printemps, les parcs parisiens sont pris d'assaut, comme les bords de la Garonne à Bordeaux. 20 degrés sous un grand soleil.
On est peut-être 200, 300. Alors, il suffit qu'il y ait un virus, là, c'est bon, hein. C'est régalerie, là, parce qu'on est quand même assez nombreux.
Ça vous inquiète pas, ça ?
Pas vraiment, non, pas vraiment, mais bon.
Je suis assez confiant sur le traitement qui sera fait, sur notre niveau de qualité du système de santé. Donc, pour l'instant, non, pas trop inquiet.
L'insouciance, au risque d'accélérer la contagion, au risque de submerger les hôpitaux.
Bon, je pense que, de toute manière, qu'on reste chez nous, qu'on reste pas chez nous, si on doit l'avoir, on doit l'avoir. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, on se sent pas concernés.
Ça me déprime totalement, les gens réalisent pas du tout, quoi. Il y a 20 cm entre deux personnes, et je veux dire, on a l'impression que c'est une histoire qui n'existe pas. Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici, et ça va secouer sérieusement.
L'état d'inconscience, titre ce matin Libération. Alors que le conseil scientifique sur lequel s'appuie l'exécutif pour prendre ses décisions a dressé son scénario le plus alarmant. Il s'appuie sur un rapport britannique que le journal Le Monde a pu consulter, selon lequel l'épidémie de Covid-19 pourrait faire jusqu'à 500 000 victimes en France. Il s'agit de la simulation la plus extrême, dans l'hypothèse où aucune mesure n'est prise, comme les gestes barrières, la fermeture des écoles ou celle de très nombreux commerces. Ce matin, le directeur général de la Santé n'était pas très optimiste.
C'est une épidémie très rapide, on voit que le nombre de cas double désormais tous les 3 jours. Les soignants poussent vraiment un cri d'alarme, un cri d'alerte, demandant qu'on les aide, demandant que les Français les aident, parce qu'il faut comprendre que nous avons tous un rôle majeur à jouer contre l'épidémie et que nous pouvons tous faire barrière contre cette épidémie en respectant les consignes. Et donc cette faible adhésion fait qu'on n'arrive pas à freiner la cinétique de l'épidémie.
Alors, dans cette course de vitesse, Emmanuel Macron doit s'exprimer à nouveau ce soir à 20h. Beaucoup anticipent un confinement encore plus drastique.
Alors, beaucoup de questions ce soir, naturellement, sur le confinement. Si Macron annonce le confinement ce soir, combien de temps pourrait-il durer, Christophe Barbier ?
Je vous dis, le chiffre qui circulait il y a quelques minutes, c'était 45 jours. Hein, c'est-à-dire que ça nous emmène à la fin du mois d'avril. Alors, est-ce que c'est un chiffre calculé sur des courbes médicales qui permettent, en limitant les contacts, de casser cette courbe de l'épidémie ? Est-ce que c'est un chiffre provisoire ? Parce qu'un confinement général, ça peut se prolonger, hein, si on constate que ça n'est pas efficace. Ce qui va être important aussi, ça va être la dureté du processus adopté et éventuellement annoncé ce soir. Est-ce que ça sera un confinement où vraiment on ne sort pas de chez soi, sauf cas extrême? Est-ce qu'on aura droit à un papier du ministère de l'Intérieur, comme on a vu en Italie, pour la moindre circulation? Quelles seront les exemptions professionnelles? Tout cela, ça sera très important. Ça ne sera pas dans le discours du président ce soir, mais ça sera très très vite annoncé par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur.
Un peu de crémieux sur la durée du confinement, 45 jours, ça correspond à quelque chose?
Il faut dire la vérité aux Français. Le confinement doit être, enfin, les mesures doivent être les plus complètes possibles, bon, les plus précoces possibles, et elles doivent durer le temps que ça doit durer. Aujourd'hui, personne n'est capable de définir de manière précise le temps. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est qu'il faut que ça dure le temps nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à contrôler les épidémies en Chine, c'est comme ça qu'on a des exemples plus anciens de la grippe de 1918. On sait que les villes qui ont tenu bon, qui ont tenu suffisamment longtemps le confinement, ont été des villes dans lesquelles il y a eu une diminution de la contamination et une diminution de la mortalité. C'est ça qu'il faut dire aux Français. Il faudra tenir. Il faudra tenir parce qu'on va diminuer le nombre de contaminations et on va diminuer le nombre de morts. Et c'est ça l'enjeu.
Il faudra tenir. C'est-à-dire que quand on se projette, on se dit il faudra tenir 3 mois.
Attendez, on est dans une situation inédite. La capacité d'adaptation des gens, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on croit. Franchement, moi, je pense que face à la gravité de la situation, si elle est clairement expliquée, eh bien, les gens sont capables de s'adapter. Les gens sont capables de comprendre qu'il faut se protéger, qu'il faut protéger leurs proches et qu'effectivement, ça nécessite des sacrifices. Simplement, il faut qu'on leur dise clairement les choses. Aujourd'hui, nous ne savons pas combien de temps ça va durer.
Quand vous dites qu'il faut leur dire clairement les choses, quand on voit les images de ce week-end qui ont choqué, notamment les personnels soignants qui se battent pied à pied contre des cas très graves, qui sont au nombre de 400, je le rappelle ce soir, on ne leur a pas suffisamment expliqué les choses. Vous dites qu'ils s'adapteront, ça ne va pas être simple. On l'a vu ce week-end.
Pour l'instant, et c'est normal, il y avait déjà un décalage entre ce que ressentaient les soignants et ce que ressentaient les politiques. Ça a éclaté au grand jour la semaine dernière. Donc les politiques ont réagi et ils ont eu raison. Comment voulez-vous que les citoyens eux-mêmes s'adaptent aussi rapidement, eux-mêmes qui n'ont pas la réalité sous les yeux? Ils vont la voir. Il y a des témoignages, il y a les soignants qui expliquent. Ils vont se rendre compte.
Alain Boer, c'est quoi un confinement total? Ça ressemble à quoi? C'est vrai qu'il faut se mettre à la place des gens qui nous regardent, qui vont et viennent tranquillement, librement depuis des années et à qui on dit c'est fini. C'est fini ou si, c'est ce qu'annonce ce soir à 20h le président de la République. Un confinement total à l'italienne, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de sortir, qu'il faut des laissez-passer. Qu'est-ce qui est prévu en la matière, à votre avis, Alain Boer?
Bah, en fait, ça marche exactement comme un accident nucléaire, qui ne serait qu'un accident, ou une situation de couvre-feu obligatoire due à un problème sécuritaire majeur. Nous savons depuis une petite centaine d'années qu'un processus pandémique mal maîtrisé ou mieux maîtrisé, ça dure environ 12 semaines. Donc vous comptez début février, mi-février, pour que ça remonte au cerveau, car ça a mis un certain temps à remonter au cerveau, selon la logique de « oui, mais c'est les Italiens, c'est pire que chez nous », etc. Il faut savoir que les hôpitaux italiens les plus touchés sont les plus modernes et qu'ils ont parfois des leçons à donner à certains hôpitaux français. Donc, c'est pas ça la question. Et donc, ça va nous mettre gentiment jusqu'à fin avril, mi-mai, ce qui explique la logique potentielle de la date susurrée dans la fameuse réunion du Premier ministre sur un deuxième tour d'élection municipal le 21 juin avec 8 jours de campagne comme ça se serait fait. Donc vous descendez de 8 jours en arrière, ça vous met le 13 juin et ça laisse un temps d'interprétation sur le retour gentil et normal de la population dans des conditions raisonnables. Alors le confinement total, c'est tout le monde à la maison avec des autorisations qui vont être très réduites sur éventuellement des livraisons à domicile ou des heures de sortie pour aller se réapprovisionner. C'est l'arrêt technique du pays, puisque le vrai problème qui existe aujourd'hui, c'est le niveau de contamination de ceux qui contaminent. Le virus ne contamine pas tout seul, il doit être porté par un individu. L'individu, dans la journée, il peut contaminer 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Le record étant de 54 en Chine dans un hôpital. Et donc, chaque fois qu'un individu contamine d'autres individus qui en contaminent d'autres, vous avez un effet exponentiel. La réduction. Le confinement, c'est casser cet effet exponentiel. Alors, il n'est pas rétroactif, tous ceux qui ont déjà contaminé des tas de gens, notamment dimanche dernier, certes, ils sont jeunes et ils sont insouciants, mais ils ont peut-être commencé à contaminer des gens qui sont moins jeunes et moins insouciants. Ouais. Et donc, tout ce processus-là, il vise à casser cette propagation et à ralentir la cour pour descendre de l'Annapurna ou de l'Everest à peu près au niveau du Mont-Blanc et de commencer à ralentir, à trouver un espace, je dirais, de plateau avant une lente redescente. Mmh. Tout ça dure 12 semaines pour l'essentiel et puis ensuite, ça va durer jusqu'à la fin de l'année pour être sûr qu'il n'y aura pas de reprise, car une pandémie, ça a aussi des répliques. Quand on ressort et qu'on fait comme si tout allait bien, évidemment, il reste des gens contaminés et des gens contaminants.
Alors, voilà. Juste une question pour...
Le confinement, c'est tout le monde à la maison.
Le message est passé, Alain Bauer, tout le monde à la maison. Encore une fois, le président n'a pas encore annoncé cette mesure de confinement général. Est-ce qu'il y aurait une autre option? Ça paraît...
On voit mal le président prendre la parole de manière aussi solennelle, 4 jours après l'avoir déjà fait, sans annoncer quelque chose de très fort. C'est-à-dire que du sommet de la nation jusqu'au plus humble des citoyens, il faudra se mettre à l'unisson. Parce que le problème depuis le début, c'est qu'on n'est pas à l'unisson. Certains sont exemplaires dans les gestes barrières, d'autres sont dans un état d'alerte, notamment les personnels soignants qui les met en vigilance, et puis d'autres continuent à penser que c'est pas si grave, qu'on passera à côté. Il y a des différences géographiques aussi tellement importantes que ceux qui s'informent avec la presse quotidienne régionale, c'est pas la même chose si vous lisez les journaux de l'Est de la France ou si vous lisez les journaux du Sud-Ouest.
Cécile Thibert, est-ce qu'il y a une attente de la part des personnels que vous avez pu joindre, notamment lors de votre enquête sur les personnels dans les hôpitaux du Grand Est, sur le confinement général? Est-ce qu'eux, ils le réclament et ils l'attendent?
Ils le réclament, ils l'attendent et tous les gens à qui j'ai pu parler, que ce soit des urgentistes ou des réanimateurs dans la région Grand Est, en Bretagne, à Paris, se demandent pourquoi l'élection, le premier tour de l'élection a été maintenu, puisqu'on sait effectivement que l'épidémie suit une courbe exponentielle, puisque une personne infecte en moyenne 3 personnes, il y a des super contaminateurs qui infectent beaucoup plus, et donc en fait le nombre de cas, il y a énormément de gens qui sont actuellement porteurs du virus, on sait qu'une bonne partie ne développe pas de symptômes, donc c'est quelque chose qui est relativement insidieux et invisible, on ne voit pas forcément ces gens-là. Et donc les soignants attendent de toute urgence, il y a vraiment une demande pour un confinement général. Et aussi l'autre chose qui est ressortie des entretiens, c'était le manque de visibilité sur les stocks de masques. Hein. Ils commencent déjà à manquer. Il y en a qui doivent déjà utiliser des masques chirurgicaux simples alors que normalement ils devraient utiliser des FFP2 au contact des malades. Donc il y a vraiment ce problème de masques et je ne parle même pas des médecins généralistes qui pour la plupart n'en ont pas et qui sont aujourd'hui amenés à se coudre des masques en tissu. Voilà.
Ça quand même. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des masques ?
Actuellement, on a des tutoriels. Les médecins généralistes se passent des tutoriels. J'en ai eu une vendredi matin au téléphone. Je lui dis, je vous dérange pas. Elle me dit, non, je finis de coudre mes masques pour ma maison de santé. On est 10 soignants et on n'a plus de masques. Voilà.
Ça sert à quelque chose, les masques en tissu, Anne-Claude Crémieux ?
Écoutez, on ne peut pas dire, c'est déjà...
Études,
alors, on va laisser répondre. Alors, allez-y, Cécile Thibert. Pardonnez-moi, je vous ai coupé.
Oui, selon certaines études, ça serait mieux que rien. Et eux, en plus, ils font des masques où on peut insérer à l'intérieur une sorte de filtre, façon un peu filtre qu'on peut trouver dans les masques chirurgicaux. Enfin, je ne sais pas exactement comment ils se les procurent. Mais en tout cas, c'est des masques durables et ils les lavent tous les jours. Voilà. Ils sont amenés à faire ça en ce moment. Donc, ils réclament, ils demandent où sont ces masques. Il y a d'ailleurs eu un recours au Conseil d'État qui a été déposé, il me semble, hier par des médecins. Et là, c'est vraiment une urgence puisque ces médecins vont contracter la maladie. Alors, dans la majorité des cas, ça ne provoque pas de cas graves. Ça provoque des symptômes relativement bénins. Mais néanmoins, ça invalide la personne pendant une semaine, voire 2 semaines. Et puis, il faut penser à tous ces médecins qui ont un certain âge, qui ont peut-être même des pathologies. On sait que l'hypertension, c'est un facteur de risque pour cette maladie-là, pour cette infection. Donc, on pense à tous les médecins qui ont des facteurs de risque et qui sont aujourd'hui en première ligne avec pas d'équipement. Hein, finalement, on a vu que les gels hydroalcooliques étaient présents dans les bureaux de vote, mais ils sont malheureusement pas dans les cabinets des médecins généralistes pour la plupart.
Anne-Claude Crémieux.
Ça, c'est absolument un élément indispensable et on le savait depuis ce qui est arrivé en Chine. Il faut protéger le personnel soignant. C'est évident. Les médecins généralistes vont être mis dans les jours qui viennent à contribution justement pour absorber une partie de l'épidémie, c'est-à-dire les personnes qui effectivement présentent des pathologies qui sont peu sévères et qui ne nécessitent pas d'emblée une hospitalisation. Bien sûr qu'on ne peut leur demander de faire ça que si ils ont du matériel de protection.
C'est quand le pic ?
Alors, bonne question. Très bonne question.
Parce que je vous pose la question, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on lit ici ou là, parce que parfois certains jouent à se faire peur, à nous faire peur peut-être. En tout cas, il faut trier dans les informations qui nous arrivent sur cette crise majeure. On a vu des projections. Publié d'ailleurs dans Le Monde cet après-midi, qu'on a vu dans notre premier reportage, qui font état de 500 000 morts en France, si rien n'est fait. C'est une étude qui nous vient de l'épidémiologie, je le cite, Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres.
Alors, j'ai deux remarques là-dessus. La première, c'est qu'il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant toutes les modélisations, et un bon épidémiologiste vous dira toujours, signalera toujours les faiblesses de sa modélisation. Le deuxième, et d'autant plus que dans cette épidémie, et tous les épidémiologistes le reconnaissent, il reste un certain nombre d'inconnus réels sur la transmission. La deuxième chose, et Neil Ferguson le dit, sa projection, c'est une projection sans intervention, je dirais, de mesures barrières, de distance sociale. Il l'a
si
très clairement
fait.
Dit, il appelle même ça le pire,
scénario du pire.
Le pire des scénarios du pire, hein, publié. Et il l'a fait, je dois dire, avant qu'on ait connaissance des résultats de l'intervention par des mesures barrières en Chine. Il faut bien se rendre compte qu'aucun épidémiologiste n'avait prévu l'efficacité des mesures qui ont été prises en Chine. On est dans un modèle, encore une fois, où on gouverne l'imprévisible. Certes, les scientifiques peuvent donner des éléments aux politiques, mais ils doivent aussi faire comprendre aux politiques les limites des connaissances scientifiques. Et c'est là où le politique doit intervenir. Il sait qu'il peut s'aider de la science, mais la science ne fait pas tout. La politique doit donc prendre le relais. Et quand les Chinois ont décidé de prendre des mesures extrêmement radical, eh bien, c'est le politique qui a pris le dessus. Il ne s'appuyait pas sur des projections d'épidémiologistes.
Vous dites ça parce que c'est vrai, Alain Boer, qu'on a beaucoup entendu, notamment les membres du gouvernement, les membres de la majorité, nous dire ces derniers jours, notamment sur la question des élections, qu'ils avaient réuni un comité d'experts et que c'est au regard de la décision, d'une certaine manière, de ce comité d'experts, qu'ils ont décidé de maintenir cette décision, de maintenir ces élections. Là, pour le coup, comment arbitrer entre l'avis des experts qui ne sont que des experts, qu'il faut écouter, et en même temps la décision du politique?
Alors, la bonne vieille adèche, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que les responsables politiques sont là pour décider. Le président de la République avait dit « Je suis votre chef » en parlant à un chef d'état-major des armées. Le président de la République et le Premier ministre décident. Alors, ils s'appuient sur des conseils. Il se trouve que la communauté scientifique est beaucoup plus divisée que cela, y compris sur la question de la tenue du premier tour des élections, y compris sur la pente de progression de la pandémie. Et quand vous regardez, par exemple, la position initialement prise par le Premier ministre britannique sur le thème, tout le monde va être contaminé.
On va en parler,
ça va créer une immunité naturelle, on n'en parlera plus. La phase de rétropédalage est assez brutale. Donc, le sujet général, il est que les politiques décident, et je tiens à le dire, il n'y a aucune surprise particulière dans la pente pandémique qui est vécue. On a vécu la même à Philadelphie en 1918-19, qu'on compare en général avec celui d'une ville où le confinement a été obligatoire, où les soldats qui rentraient n'ont pas eu droit à des fêtes populaires majeures. Et vous avez une qui a une courbe qui représente l'Everest et l'autre le Massif central. Donc chaque fois, la décision qui est prise par des autorités, alors certes locales, là, a eu des effets en termes de pas d'engorgement des hôpitaux, une mortalité beaucoup moindre car pas d'engorgement des hôpitaux, un nombre de personnes qui ont été contaminées moindre parce que confinement et distance sociale. Bref, ces choix ont des effets. Et donc, en la matière, il n'y a pas de surprise particulière. Et on attend la diffusion officielle de la fameuse note de synthèse. Il se trouve que dans d'autres communautés scientifiques, ça fait plusieurs semaines que l'analyse est que la pente pandémique va être terrible et qu'il faut organiser des dispositifs de distanciation sociale. Et je suis d'accord avec Mme Trémieux. En fait, on a découvert que la position chinoise était encore plus efficace que ce qui était indiqué comme préalable à des mesures de précaution. Et donc, voilà, mais ceci dit, c'est fait, la question n'est plus là. On est entré dans la prise de conscience de la réalité de ce processus et c'est une bonne chose.
Ce que je retiens de ce que vous expliquez, c'est que les mesures de confinement, ça marche. En tout cas, c'est peut-être la seule chose qui marche de manière avérée.
D'ailleurs, les experts qui sont revenus de Chine et qui ont constaté la diminution ont dit très clairement, écoutez, on espère qu'au moins les gens ne vont pas dire à quoi ça sert tout ça.
C'est ça.
On a un exemple pour dire, écoutez, il faut y aller. Ça, c'est mot à mot ce qu'ils ont dit. Et alors, bien sûr, on ne peut pas, il ne faut pas non plus, je dirais, dire plus que ce qu'on sait. On ne sait pas à quel niveau ça va marcher. Et quoi. Mais on sait que ce qu'on attend de ces mesures, ce n'est pas seulement d'aplatir la courbe de l'épidémie pour que les services de santé ne soient pas surchargés. On attend deux effets. On attend effectivement d'aplatir cette courbe, mais on attend aussi de diminuer la contamination et la chute, enfin, la baisse de mortalité qu'on espère, elle est la résultante de ces deux effets. Ne pas encombrer, ne pas submerger les services de santé et diminuer le nombre de contaminations. C'est bien ça qu'on veut avec ces mesures barrières.
Alors la France a voté ce week-end, mais dès hier soir, la classe politique était unanime pour demander le report du second tour. En quelques heures, les ténors de tous les partis ont changé leur fusil d'épaule. Les résultats et les questions politiques sont soudainement passés au second plan, alors qu'on apprend cet après-midi que le second tour des élections municipales sera vraisemblablement reporté au 21 juin. Julien Launay, Emmanuel Bach avec Pierre Millet-Bellandeau.
Dans quelques secondes, des premiers résultats du premier tour, un premier tour évidemment totalement bouleversé.
Hier soir, dès la diffusion des résultats, dans les premiers mots du débat, il n'est presque déjà plus question de politique.
Olivier Véran, juste une question. Il fallait les organiser, ces élections.
La vie démocratique dans notre pays justifie que dans des bonnes conditions d'organisation des élections, en respectant un mètre de distance, avec du gel hydroalcoolique, avec un stylo, ils puissent aller accomplir ce geste de civisme.
Aux côtés du ministre de la Santé, l'opposition de gauche comme de droite est encore et toujours le même débat.
La 5e République, c'est le président de la République qui décide seul, et c'est lui seul qui est destinataire de toutes les informations nécessaires pour décider. Il a décidé de maintenir ce premier tour des élections municipales, dont acte.
Pourquoi convoquer un premier tour si on sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de second tour? Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si le gouvernement a dans l'intention d'aller vers un confinement plus général, est-ce qu'il a dans l'intention d'aller vers un second tour ou pas, et qu'il donne les raisons qui font que cette stratégie soit appréhendable par chacun d'entre nous.
La conclusion d'une journée électorale unique dans l'histoire de la 5e République. Partout en France, des bureaux de vote quasi vides. Ici, à Bordeaux, des mesures d'hygiène exceptionnelles.
Venir dépouiller ce soir. Prenez ce stylo-là. Voilà, vous mettez là. Non, mais il est désinfecté.
C'est vrai, à chaque fois.
Absolument.
Wow. Allez-y.
Et des votants, tous dubitatifs quant à la tenue du scrutin.
Je pense que les élections auraient peut-être dû être reportées dans ces conditions, mais maintenant qu'elles sont là, autant venir. Voilà.
Je ne suis concerné que par moi, que par mon devoir. Je le fais. Puis après, c'est évident que le résultat risque d'être complètement faussé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça.
J'ai peur que le deuxième tour ne se fasse pas dans les bonnes conditions. Maintenant, ça a été maintenu, donc dans tous les cas, il faut y aller. Parce qu'après, ça reste à me voir. Mais sinon, j'aurais préféré que ça soit repoussé, effectivement. Mais maintenant que c'est maintenu, autant y aller jusqu'au bout.
Au même moment, depuis le Touquet où il est allé voter, Emmanuel Macron assume.
Je suis garant de la sécurité, de la santé de nos concitoyens, mais également de la vie démocratique de notre pays. Et je pense qu'il est important de voter dans ces moments-là, en prenant cette discipline, en respectant ces règles, parce que je pense qu'il est important de continuer à être des citoyens dignes, libres.
En fin de journée, pourtant, ce chiffre. 55,36% d'abstention, presque 20 points de plus qu'il y a 6 ans. Quelques éléments importants toutefois. Le score d'Anne Hidalgo à Paris, loin devant Rachida Dati et Agnès Buzyn. Ou encore la poussée des écologistes. En témoignent les excellents scores d'Europe Écologie Les Verts à Grenoble, Bordeaux ou Lyon. Mais un second tour se tiendra-t-il? Yannick Jadot, malgré les bons chiffres de son camp, se dit contre.
Merci. On voit les messages extrêmement inquiets de tous nos spécialistes de la santé, nous dire qu'il va falloir se confiner davantage, des mesures plus drastiques. Donc on ne voit pas comment la campagne de second tour peut s'organiser correctement avec le risque d'une abstention extrêmement élevée au second tour.
La leader du Rassemblement national, elle, s'était exprimée la veille, après les résultats.
Le second tour n'aura manifestement pas lieu compte tenu de l'aggravation prévisible de l'épidémie. Il faut donc considérer comme acquises les nombreuses élections qui ont vu les candidats être élus au premier tour et reporter les autres qui devront se tenir dans quelques mois quand l'épidémie sera jugulée. Parce que
je pense que Bruno Retailleau est l'un des élus à l'origine d'un appel au report diffusé dans la soirée d'hier.
La question du second tour, je le disais, ça n'est pas raisonnable vraisemblablement de le tenir dimanche prochain. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on le décale de quelques semaines ou de quelques mois, et alors on peut garder le bénéfice du premier tour. Mais si on le décale trop, il faudra refaire l'ensemble de l'élection.
Ce soir, Emmanuel Macron s'adressera aux Français lors d'une nouvelle allocution. La question du prochain tour des municipales pourrait être évoquée. Le parti du président, La République En Marche, a appelé tous ses candidats à suspendre leur campagne.
Et cette question, les élections paraissent être un sujet bien futile en cette période de crise sanitaire. Pourquoi ces états d'âme pour un report? C'est vrai qu'on n'a même pas parlé des résultats.
Ce n'est pas un sujet futile, la démocratie. Bien sûr, on peut considérer qu'au moment où on est en train de sauver des vies, le geste d'aller mettre un bulletin dans une urne pour savoir qui va s'occuper de nos trottoirs et de nos permis de construire, c'est secondaire. Mais c'est justement dans les pires moments de la vie d'une nation qu'il faut faire attention à ce que l'on fait avec la démocratie. Suspendre comme ça, par le fait du prince, un premier tour des municipales, parce que jeudi ou vendredi, c'est par l'article 16 qu'on aurait pu le faire, sans doute.
L'état d'urgence, eh
bien, l'état d'urgence, c'est plus que l'état d'urgence. L'article 16, c'est les pleins pouvoirs donnés au président D'accord. de la République. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée, mais il peut tout faire. Les ordonnances ont valeur de loi. C'est pas simple. C'est quand même pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. Parce qu'aujourd'hui, on dirait oui, pour une épidémie, c'est justifié. Mais demain, après-demain, d'autres régimes peuvent trouver d'autres raisons de jouer comme ça avec les scrutins. Donc il faut faire très attention. Alors évidemment, à rebours, on se rend compte que tenir ce premier tour était une erreur, puisqu'on n'est pas en état de tenir le second. Néanmoins, quand le président a pris sa décision, contre-intuitive, d'après ce qu'on le sait, puisque lui était plutôt pour l'annulation. Il y a eu un consensus politique pour les maintenir, notamment venant de la droite, qui espérait de bons résultats. Elle a eu d'ailleurs de bons résultats au premier tour, confirmant sa vague de 2014. Venant des experts médicaux, disant « Allez au bureau de vote si on respecte les gestes barrières. » Et moi, dans mon bureau de vote, ça a été impeccable. Ça protège, ça n'est pas dangereux. Moins qu'encore que d'aller chercher son pain. Et troisièmement, il y a eu aussi un débat juridique qui expliquait ce que je vous disais. À moins d'avoir vraiment l'article 16, c'était compliqué d'annuler ce premier tour. Bon, c'est fait, c'est fait. Ne pleurons pas sur les renversés. Je pense que la décision de reporter au printemps, qu'on sera sorti de tout ça, est une bonne décision. Elle semble prise. En tout cas, ceux qui sont sortis des réunions semblaient favorables. Il y avait une autre solution possible, c'était de réveiller une vieille pratique et le vote par correspondance qu'on a utilisé jusqu'en 1975, qui permettait d'envoyer aux gens leur bulletin puis avec l'enveloppe pour voter et l'enveloppe pour s'identifier. Et puis on envoyait tout ça par la poste et il n'y avait aucun contact. Bon, le 21 juin, ça permet demain, une fois que les listes seront déposées en préfecture, de geler le paysage du second tour. Est-ce que la sincérité du scrutin, parce que c'était le débat des constitutionnalistes, est faussée par cet écart de 2 mois entre le 21 mars et le 21 juin, et même de 3 mois? Est-ce que ces 90 jours faussent la sincérité? On dirait oui si certains pouvaient faire campagne pendant que d'autres étaient confinés. Ça n'est pas le cas. Donc la sincérité du scrutin, à mon avis, sera préservée par ce délai de 90 jours. Attention, en 90 jours, il peut se passer des choses. Il y a des candidats qui peuvent être malades, mourir. Il y a des candidats qui peuvent aussi changer d'avis. C'est-à-dire, finalement, moi, j'ai plus envie, vu ce qui m'est arrivé dans mon entourage économique avec cette crise, de m'investir dans ma commune. Je voudrais retirer ma candidature. Ça peut compliquer la donne.
J'aimerais réagir
oui.
sur ce point.
Oui, alors on va laisser la parole à Cécile Thibert qui n'est pas avec nous. Allez-y, je vous en prie.
Oui, les médecins, les soignants à qui j'ai parlé sont d'accord pour dire que chaque jour où on retarde en fait, le confinement, en fait, on peut probablement dire qu'on entraîne la mort, on signe la mort de plusieurs centaines de personnes, voire plus. Enfin, c'est vraiment une mesure à prendre immédiatement. Et j'aimerais vraiment expliquer clairement pourquoi ce confinement est nécessaire, vraiment plus que nécessaire. On a dit que l'épidémie suivait une courbe exponentielle puisque une personne contamine en moyenne trois personnes. On sait que le nombre de cas graves double tous les trois jours. Alors certes, pour le moment, il reste faible, mais il va vraiment augmenter. Et d'après les calculs, on sait que dans 10 jours, on aura 5 000 personnes qui seront hospitalisées en réanimation en France. 5 000 personnes. 5 000 personnes, 5 000 lits, c'est le nombre de lits en réanimation dont on dispose actuellement sur tout le territoire français. Sachant que, comme vous vous en doutez, ces lits ne sont pas vides en train d'attendre bien sagement les futurs malades du coronavirus qui sont en train d'incuber. Ces lits sont déjà occupés par des gens qui ont eu un cancer de l'œsophage et qui nécessitent une réanimation. Donc 5 000 lits, en fait, c'est pas exactement le nombre de places disponibles dans l'instant. Donc on sait qu'on est dans une urgence, et d'autant que les personnes qui ont le coronavirus, qui ont un cas grave, je veux dire, n'ont besoin des ventilateurs. Hein. C'est ces fameuses machines qui envoient de l'oxygène. On intube les patients, on les endort et on envoie de l'oxygène dans leurs poumons. Ces machines-là, ces ventilateurs, les patients en ont besoin non pas une journée, mais 1 à 2 semaines. Donc un patient va monopoliser relativement longtemps. Et je voudrais aussi faire passer un message et vous lire en fait ce que m'a dit un médecin de Metz, un réanimateur. Il m'a dit hier, ce qu'il s'est passé en Italie et qui risque d'arriver ici est la pratique des limitations thérapeutiques dans le cadre de ce qu'on appelle la justice distributive. C'est-à-dire qu'on va devoir choisir de ne pas réanimer quelqu'un pour que quelqu'un d'autre qui aurait plus de chances de s'en sortir puisse en profiter. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tri thérapeutique, c'est ce qui va arriver si on ne se confine pas immédiatement, puisqu'il faut absolument casser cette dynamique de l'épidémie. Et malgré ça, on sait que tous les services de France vont être en saturation. Voilà.
Vous disiez, et c'est parfaitement clair ce que vous venez de nous expliquer, vous nous avez expliqué qu'il y avait 5 000 lits de réanimation en France, 7364 lits dans les unités de soins, pardon, je termine juste ma phrase, 7364 lits dans les unités de soins intensifs, et en ce moment même, les hôpitaux sont en train de se réorganiser pour libérer de la place, pour libérer des lits, mais vous avez bien fait de nous rappeler ce soir qu'il y a aussi des gens qui sont hospitalisés en ce moment et qui sont malades et qui ont droit à des soins. Je vous laisse terminer ce que vous vouliez me dire à l'instant, Céline. Cécile Thibert.
Non, je sais plus ce que je voulais dire, mais j'ai complètement oublié.
Et c'est pas grave, je vais donner la parole à Anne-Claude Crémieux. Vous voulez réagir sur les élections?
Oui, je voulais réagir sur les élections parce qu'on reproche aux citoyens de ne pas s'être mobilisés immédiatement, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une sorte d'injonction paradoxale dans ce discours qui consistait à nous dire c'est grave, c'est sérieux, mais en même temps vous pouvez aller voter. Et ça, c'est de la responsabilité politique. Donc je pense, très bien, ce soir, ça va être rattrapé, et c'est fort bien, parce que quand on veut mobiliser une population entière et lui faire prendre des mesures totalement inédites, on ne peut pas se permettre d'avoir une injonction paradoxale.
Alain Boer ?
Oui, c'est tout le problème de la cohérence, et l'incohérence qui pose des problèmes aux citoyens. On leur dit confinés à la casa, on arrête tout. Les Italiens ont arrêté un référendum constitutionnel, ça ne leur a pas posé un problème. Au Parlement, chaque groupe a désigné un mini-groupe de députés pour continuer à siéger en proportion de ce qu'ils représentent en réalité. Ces mesures sont pratico-pratiques. C'est un peuple du Sud, méditerranéen, qui est, paraît-il, le comble de la désorganisation et de l'ineffectivité. Mais au bout d'un moment, ils ont compris quelle était la nature de l'enjeu. Or, ils ont eu 15 jours d'avance sur nous. Nous n'en avons pas profité. Les 15 jours en question nous coûteront très cher en malades, en lits, en désespérance, en surcharge et en épuisement des personnels médicaux. Et je dis que le temps qui nous reste aujourd'hui, il vise à construire des hôpitaux d'urgence et à faire fabriquer des centaines, voire des milliers de ventilateurs qui ne seront pas perdus, car ça sera aussi le moment de faire une force d'intervention sanitaire européenne pour une fois que l'Europe puisse s'occuper de quelque chose qui est autre chose que la teneur du cacao ou de savoir si les fromages à lait entier sont autorisés. Et elle pourrait permettre à tous les pays auxquels nous ne pouvons pas donner notre aide car nous n'avons même pas les équipements suffisants pour traiter la crise qui arrive, d'avoir enfin un outil européen qui redonnerait un peu d'espoir aux vrais Européens, leur montrerait que ça peut servir à quelque chose aussi.
Alors, après cette charge d'Alain Bauer contre l'Europe...
Ce sont les Chinois.
Après cette charge, je le disais, d'Alain Bauer contre l'Europe, on va en parler de l'Europe, je vous donnerai la parole à l'instant, mais je voudrais qu'on voit le troisième reportage, qu'on en a parlé depuis le début de l'émission. Toute l'Europe, visiblement, se confine peu à peu, mais il y a quand même une voix différente qui se fait entendre, celle de Boris Johnson, qui prône, lui, l'immunité collective. Alors, le principe, c'est laisser le virus se propager pour multiplier les anticorps, avec au final l'espoir que la population soit en mesure de lutter contre la maladie. Un pari à long terme, un pari risqué en vie humaine et sévèrement critiqué au Royaume-Uni. Reportage Juliette Perrault, Benoît Thébault.
Des gens rassemblés devant les théâtres de Londres. Des matchs de foot et des tribunes remplies de supporters. Et même hier encore, un semi-marathon dans les rues de la ville de Bath. Des scènes surprenantes, alors que la plupart des autres pays misent sur le confinement. Le Royaume-Uni, lui, a fait le choix d'une autre stratégie face à l'épidémie, celle de l'immunité collective. En clair, laisser le virus se propager afin que progressivement la quasi-totalité de la population soit naturellement immunisée. Une approche justifiée par le conseiller scientifique en chef du gouvernement à la télévision.
Pour construire cette immunité collective au Royaume-Uni, quel pourcentage de gens devraient avoir contracté le virus ?
Probablement autour de 60%. Nous pensons que ce virus va revenir d'une année sur l'autre, qu'il va devenir comme un virus saisonnier. Les populations seront immunisées contre lui, c'est un aspect important qui comptera sur le long terme.
60%?
60%, oui. C'est le nombre qu'il faut pour atteindre l'immunité collective.
60%, autrement dit près de 40 millions de Britanniques. Une stratégie risquée, mais assumée par le Premier ministre.
En raison de l'absence d'immunité, cette maladie est plus dangereuse et va se répandre davantage. Et je dois le dire au peuple britannique, plus de familles, beaucoup plus de familles vont perdre des êtres chers avant l'heure.
Une décision qui inquiète, alors que le virus frappe de plus en plus sévèrement le pays. Déjà 1391 cas et 35 morts. Des décès qui grimpent en flèche, ils ont été multipliés par 3 ces derniers jours. Résultat, un vent de panique s'empare des Britanniques. Ici comme ailleurs, les mêmes scènes aux abords des supermarchés. De longues queues à l'extérieur et à l'intérieur, des rayons, parfois complètement vides. Dans ce contexte, difficile d'y voir clair, y compris pour les travailleurs, qui ont pourtant repris ce matin le chemin du bureau, comme tous les lundis.
Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Mon patron ne sait pas non plus. On nous a dit qu'on pouvait travailler depuis chez nous si on voulait, mais bon, on a autant de chances d'attraper ce virus en allant au supermarché ou en prenant le train.
Je pense que nous devrions prendre ce sujet plus sérieusement.
Nous devons faire ce que tout le monde fait pour rester en sécurité. Nous devons penser les uns aux autres.
Une gestion de crise dénoncée par l'opposition.
Le gouvernement fait preuve de complaisance. Il est aux commandes et il donne des conseils différents de ceux donnés par presque tous les autres pays européens. C'est quand même étrange.
Samedi dernier, au tour des scientifiques de s'élever contre la stratégie du gouvernement dans une lettre ouverte.
Opter pour l'immunité collective à ce stade ne semble pas être une option viable, car cela mettra notre système de santé à un niveau de pression encore plus élevé et beaucoup plus de vies que nécessaire seront en danger.
Un cri d'alarme qui pourrait bien avoir porté ses fruits. Hier, changement de ton chez le secrétaire d'État à la Santé, visiblement embarrassé.
J'ai vu la lettre. La lettre disait qu'avoir pour objectif l'immunité collective n'est pas la bonne chose à faire. L'immunité collective n'est pas notre objectif ou notre politique, c'est un concept scientifique. Notre politique est de protéger des vies et de combattre ce virus.
Aujourd'hui, le gouvernement envisagerait la mise en place de mesures plus drastiques pour empêcher la propagation du virus. Parmi elles, le confinement des personnes de plus de 70 ans ou encore l'interdiction des grands rassemblements.
Et cette question qui nous est posée ce soir avec cette stratégie qui est complètement à l'opposé de ce qu'on est en train de faire en Italie, en Espagne, où l'état d'urgence pour le coup a été déclaré, et en France, je rappelle que le président s'exprimera ce soir à 20h et on entend peut-être un confinement général. En tout cas, nous posons la question ce soir. Boris Johnson ne joue-t-il pas un jeu très dangereux en misant sur l'immunité collective?
Je crois que c'est très clairement le scénario qu'a présenté l'épidémiologiste de l'Imperial College. Il a dit, voilà, il y a deux scénarios. Il y a le premier, on laisse faire l'immunité naturelle. En fait, on laisse le virus pénétrer dans la population jusqu'à qu'il y ait une immunité suffisante, dite de troupeau, pour arrêter le virus.
Quoi qu'il en coûte.
Il y en a un autre où, effectivement, on peut jouer sur les mesures barrières. Et Boris Johnson, pour l'instant, semble privilégier le premier. C'est sans compter sur la gravité de la situation qu'ont connu les autres pays. La Chine, mais c'est loin. L'Italie, c'est plus près. La France, c'est la porte à côté. Et là, c'est quand même intenable.
Alors, il vient d'annoncer, les autorités britanniques viennent de demander d'éviter tout déplacement qui ne serait pas indispensable. Alain Bauer, on a l'impression qu'ils sont en train de faire un virage sur l'aile.
Oui, le rétropédalage a commencé déjà hier. En fait, Boris Johnson avait inventé un nouveau concept, celui de la roulette britannique, qui remplaçait avantageusement la roulette russe. Sauf que lui, il joue à la roulette avec 7 ou 8 balles dans le canon. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de mourir que de s'en sortir. Et donc, je pense que la note de notre collègue de l'Imperial College était une note qui visait à dire « Voilà le prix à payer de cette politique de plan B, qui par ailleurs ne marche pas, car… » Nous avons des grippes normales et saisonnières depuis toujours, et cette immunité fonctionne avec un coût extrêmement élevé, un taux d'efficacité des vaccins entre 60 et 1%. L'année dernière, on a eu deux grippes en même temps, H3N2 et H1N1. Le vaccin a fonctionné à 60% pour l'une et très peu pour l'autre, et toujours des milliers de morts tous les ans, plus de 650 000 sur la planète, entre 8 et 10 000 chez nous. Et ça veut dire que même si cette grippe devait revenir de manière régulière, ce qui n'est pas démontré, il y a une chose qui est démontrée scientifiquement, les coronavirus ne provoquent pas d'immunité massive. Ce n'est pas vrai. Et personne ne peut dire que cette immunité massive existe. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on risque d'en avoir plus régulièrement qu'avant. Et donc, il va falloir trouver des moyens, notamment des moyens vaccinaux, pour empêcher que la mortalité, la létalité ces coronavirus augmente. Mais dans la réalité, vous avez une étude scientifique qu'on appelle une méta-étude qui dit les coronavirus, c'est formidable, ça ne crée pas d'immunité saisonnière.
Cécile Thibert, il y a quand même des tests qui vont être faits par des laboratoires qui sont en cours ou qui vont commencer. Non, pas évidemment sur des vaccins, c'est un peu trop tôt, mais sur des traitements médicaments.
Si, les tests sur les vaccins vont bientôt commencer.
D'accord.
Aussi, que ce soit au niveau de la recherche publique. Donc, on a l'Institut Pasteur en France qui est en train d'utiliser un vaccin contre la rougeole. En fait, c'est un peu comme si ce vaccin était un transporteur et dedans, ils mettent des petits bouts de coronavirus. Ça a commencé. Les essais sur l'animal vont commencer très bientôt, d'ici l'été. Mais par contre, voilà, ils ont prévenu pas avant 20 mois un vaccin disponible. On sait qu'il y a plusieurs grandes entreprises, que ce soit Sanofi, Gilead, enfin plein d'entreprises pharmaceutiques qui sont également dans la course. Et évidemment, à plus court terme, le meilleur espoir reste de trouver des médicaments. Donc il y a notamment un laboratoire à Lyon qui est en train de tester une combinaison de 3 médicaments existants. Hein, donc c'est un peu de la reprogrammation. C'est des molécules qu'on produit déjà, qu'on connaît bien, qui sont utilisées dans d'autres pathologies et qui, là, on teste sur le virus, on en teste plein pour voir comment ça réagit. Et là, de ce côté-là, il y a vraiment des résultats qui portent à être optimiste.
Eh bien, nous allons maintenant revenir à vos questions. Quelle est la situation aux États-Unis, Alain Bauer?
Elle est très dégradée. Beaucoup d'États, alors il faut savoir que ce n'est pas l'État fédéral qui gère tout, à part les frontières qui ont été fermées, y compris à la Grande-Bretagne après 48 heures de répit données par le président Trump. La plupart des grands États sont en état d'urgence. Dans la plupart des villes, on ferme bars, restaurants, rassemblements et autres manifestations. Les grandes manifestations sportives, les concerts ont tous été annulés. Le confinement n'est pas encore programmé, mais les États-Unis ont aussi un petit décalage. On sent les fameuses deux semaines. mais la propagation du virus est très importante et eux-mêmes ont une situation hospitalière extrêmement dégradée avec un vrai problème là de couverture d'une partie de la population qui n'a pas d'assurance médicale ou sociale, qui était d'ailleurs en voie de démantèlement par la majorité républicaine. Donc là, on est en phase panique, développée et accélérée.
Et on précise que Donald Trump, qui avait commencé en expliquant que ça n'était qu'un petit rhume, absolument, a aujourd'hui tweeté en disant tout simplement à l'Amérique « God bless America ». C'est son dernier tweet. Quels seront les critères qui permettront de lever le confinement, hein, Claude Crémieux ?
Difficile, effectivement. D'abord, on aura l'expérience en Chine, encore une fois, c'est important, puisque eux-mêmes commencent à lever les mesures de confinement. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'on va voir ce que ça donne sur leur épidémie. Donc je pense que tout ça va être décidé au jour le jour et en prenant en compte, cette fois-ci, l'expérience des autres.
Alors juste pour revenir sur une image qu'on va voir sans doute beaucoup ce soir, il y a beaucoup de gens qui habitent dans les grandes villes qui partent puisqu'ils se préparent à un confinement et qui quittent les grandes villes pour aller dans leur maison de campagne ou s'installer ailleurs en anticipant un confinement de longue durée. Est-ce que en termes de diffusion de l'épidémie, c'est une bonne chose ? Est-ce que dire de cela ?
Très honnêtement, on est tous un peu perçus.
Alors pardon, Cécile Thibert, je vous écoute.
Excusez-moi, c'est ce qui s'est passé en Italie, hein. Quand le Nord a annoncé le confinement, tout le monde a fui vers le Sud. C'est extrêmement dangereux, c'est vraiment a priori ce qu'il faut pas faire, d'autant plus si ces personnes vont rejoindre leurs parents, leurs grands-parents qui sont des personnes à risque. Ces personnes ne le savent peut-être pas parce que ce sont des porteurs du virus asymptomatiques, mais ils prennent le risque, il faut le savoir, et là vraiment j'appelle à la conscience de tous, ils prennent le risque d'aller contaminer d'autres personnes au-delà de leur famille. Donc ça va faire une diffusion massive en quelques jours du virus dans les prochains jours.
Mais néanmoins, le gouvernement va devoir laisser la possibilité à chacun de regagner son domicile, de regagner l'endroit où il souhaite être confiné. Il y a des gens qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, sont loin de l'endroit où ça sera plus facile pour eux de vivre s'ils sont confinés.
Je crois qu'effectivement, ça va être, c'est quand même un certain nombre de situations très hétérogènes. On peut quand même penser que, à ce stade, le virus est absolument partout en France, même si il ne s'exprime pas avec la même force et avec la même, je dirais, rapidité en même temps. Donc, je ne crois pas tellement que ça soit un problème de diffuser le virus. Je pense que c'est plus des situations particulières. Il faut vraiment que les familles gardent en tête qu'il ne faut pas exposer les personnes fragiles dans leur famille, en particulier les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des comorbidités ou qui prennent des traitements immunosuppresseurs. Chacun doit vraiment prendre en compte la situation familiale personnelle.
Combien de temps un porteur sain est-il contagieux ?
C'est là aussi une question qui est extrêmement difficile parce que on a très peu de porteurs sains qui ont été dépistés. On a ceux qui ont été en contact avec un cas malade et qui en fait ont été dépistés parce que c'était des contacts. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le portage du virus peut être assez prolongé, parfois 15 jours, disons à peu près 15 jours. Et donc, un porteur sain qui excrète du virus pendant 15 jours, on imagine qu'effectivement ça fait beaucoup de gens rencontrés et donc beaucoup de gens potentiellement infectés.
D'où l'utilité des gestes barrières pour tous.
C'est pour ça que la seule politique aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est les gestes barrières pour tous, parce qu'effectivement, si cette épidémie nous a échappé au contrôle des premières mesures, très clairement basé sur la reconnaissance des symptômes, eh bien, il faut passer effectivement à distance pour tous.
Et vraiment, confinement.
Distance sociale pour tous.
Ne serait-ce pas mieux si chacun mettait un masque lors de ses déplacements ?
Alors, on l'a dit, hein, on a un vrai problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité déjà sur les stocks de masques. Donc aujourd'hui, la politique, c'est de dire on va utiliser ces masques dans les situations où on est certain qu'elles apportent quelque chose, qu'elles protègent. Et les deux situations dans lesquelles on sait que ça protège, c'est quand les gens sont très au contact de personnes et qu'effectivement, bon, elles prennent un risque réel. Et puis deuxièmement, quand on a des symptômes.
Une question pour vous, Cécile Thibert. Peut-on devenir bénévole dans un hôpital pour alléger le travail des infirmiers ? Est-ce qu'il y a un appel aux bénévoles qui a été lancé dans les hôpitaux avec lesquels vous êtes entré en contact ?
Je ne crois pas, d'autant qu'en fait, il y a beaucoup de soignants qui vont, de professionnels de santé, ou paramédicaux qui vont un peu être mis sur la touche. Je discutais avec un kinésithérapeute d'un hôpital parisien qui me disait, bon, bah, de toute façon, tout ce qui est trauma, rééducation, c'est un peu gelé. Et il m'a dit, bah, moi, je suis prêt à tout faire, je suis prêt à être brancardier, je suis prêt à faire du secrétariat, n'importe quoi. Donc, en soi, il y a déjà un grand vivier. Après, je ne sais pas encore, j'imagine que des mesures, des propositions vont se mettre en place peut-être dans les prochains jours. C'est vrai qu'en tout cas, j'ai reçu pas mal de témoignages, de mails là, aujourd'hui, de gens qui disent « mais comment peut-on aider ?» Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Déjà, aider les soignants. Hein, si on a des soignants dans son voisinage, il ne faut pas hésiter à leur proposer de faire leurs courses, parce que là, il va y avoir des files d'attente, donc ça va prendre du temps, ils n'auront pas forcément le temps. Et puis, si dans certaines régions, la garde d'enfants des soignants ne s'est pas encore mise en place, eh bien, le voisinage peut également proposer ça, garder les enfants des soignants. C'est eux là, qui vont être sur le pont pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Cette question, pourquoi les transports en commun sont-ils toujours en fonction, Alain Boer?
Parce qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour permettre aux soignants justement de se déplacer. Évidemment, leur nombre va se réduire progressivement. Il faut permettre aussi aux gens, comme le disait tout à l'heure Christophe Barbier, de rentrer chez eux à l'endroit où ils ont décidé de passer le confinement. Et donc, ils vont se réduire tendanciellement pour rester en service minimum, ce qu'on appelle la continuation d'activité, comme d'ailleurs on va avoir des effets sur l'amassage d'ordures, la gestion de l'eau, les grandes compagnies EDF, etc. Tous ces gens ont des plans de continuation d'activité qui vont toucher tous les secteurs de la vie, la poste, etc. Il va falloir s'habituer aussi à une réduction de l'offre de services publics pour protéger les agents et permettre de maintenir l'activité de production d'énergie et tous les autres grands services publics qui vont être obligés de s'adapter. Certains ont des réserves, la police, la gendarmerie, la réserve sanitaire pour les hôpitaux. Et donc, il faut se mettre en situation aussi de vivre en mode dégradé, c'est-à-dire sauver l'essentiel, mais perdre aussi une partie de la souplesse, du confort qui pouvait exister. Ce sont des éléments qui vont entrer en ligne de compte.
Et justement, une autre question pour vous, Alain Boer. Une autre question. Quels seraient les motifs autorisant un départ de son domicile en cas de confinement?
Eh bien, des raisons impérieuses, nécessaires et indispensables qui sont personnelles appartenant à un opérateur d'importance vitale, évidemment médecins, policiers, gendarmes, journalistes d'ailleurs, car la liberté de l'information doit être maintenue même si elle doit être adaptée, ce que vous avez fait ce soir ou commencé à faire ce soir.
Et on vous remercie.
Une série de dispositifs. Et d'ailleurs, je rajoute à cela des initiatives. Par exemple, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ont remis en ligne de très nombreux cours ou de très nombreux MOOC qui sont disponibles. Des grands opérateurs de réseaux sociaux font, je crois, Ensemble à la maison pour faire en sorte justement que l'ennui ne devienne pas un obstacle au confinement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont prises.
Alors, justement, je vous recommande. Ah oui, alors allez-y, alors. Non, je vous en prie.
Le personnel médical qui vous explique pourquoi il faut être confiné. Parce que si vous ne croyez pas les politiques, ni les journalistes, ni les experts, regardez les médecins et les infirmières et vous allez comprendre pourquoi c'est important.
Cette question, les commissariats, c'est pour ça que je vous ai coupé, les commissariats resteront-ils pleinement ouverts en France, Alain Boer?
Non, il a déjà été annoncé à la demande des syndicats de passer en mode réduit. Moins d'accueil et une concentration sur les tâches absolument essentielles.
Comment faire ses courses sans prendre de risques quand on n'a ni masque ni liquide désinfectant? Comment on fait?
La distance et l'hygiène des mains.
Ça veut dire que le virus n'est pas dans l'air?
Il n'est pas dans l'air. C'est vraiment un virus qui passe de personne à personne quand ce qu'on appelle des contacts proches, c'est-à-dire entre 1 et 2 mètres. Garder sa distance, se laver les mains en revenant, ce sont des précautions qui sont indispensables et franchement efficaces.
Cécile Thibert, vous nous parliez tout à l'heure des masques faits main, hein, que les médecins font eux-mêmes avec des bandes de tissu et des cordelettes. Sont-ils efficaces?
En tout cas, il y a des études qui montrent que c'est mieux que rien. Donc, c'est peut-être l'occasion de se mettre à la couture.
Voilà. Merci pour cette
vidéo. Il y a des nombreux tutos sur Internet.
Macron est-il l'homme de la situation, Christophe Barbier?
Je crois que les institutions de la Ve République sont assez adaptées à ce genre de situation, au président de bien les utiliser.
Merci à vous tous, à vous qui étiez en duplex avec nous ce soir et à vous qui étiez en plateau à mes côtés à bonne distance. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir aux alentours de 22h30. On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.